Et vous pouvez ouvrir votre Bible ce matin dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, chapitre 35. Il se peut que quelques-uns se posent la question, allons-nous reprendre notre suite de messages dans la première épître aux Corinthiens. Vous savez que cela fait quelques temps maintenant depuis qu'on y était. N'ayez crainte, Dieu voulant. La semaine prochaine, nous reprendrons cela dans le chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens. Mais aujourd'hui, suite à diverses circonstances et entre autres parce que nous avons le repas du Seigneur tout à l'heure, je me dirigeais vers ce chapitre. Donc voilà, là, Dieu voulant, la semaine prochaine, nous reprendrons cette suite de messages dans la première épître aux Corinthiens. Mais pour aujourd'hui, Genèse chapitre 35. Et permettez-moi, pour commencer, de lire les quatre premiers versets de ce passage, après quoi nous prierons pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Genèse chapitre 35, les quatre premiers versets. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous laverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Prions. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous demandons ta bénédiction sur ces quelques instants que nous passerons dans ta parole, que tu touches notre cœur, Seigneur, et que tu puisses être exalté et glorifié à travers ce qui sera dit et à travers ce que tu feras dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de la préparation. Ici, Jacob se prépare pour se mettre en marche. Et dans notre vie, nous avons besoin d'une préparation. Et notamment, ce matin, on va mettre l'accent sur notre préparation pour le dimanche. Nous en avons déjà parlé dans le passé, mais cela remonte à quelques temps. Du coup, j'aimerais ce matin passer quelques instants à examiner cette idée de préparation pour le dimanche. Et lorsqu'on parle de préparation, nous savons que nous nous préparons à pas mal de choses dans la vie, n'est-ce pas? Pour les rendez-vous, vous avez un rendez-vous quelque part, ben, vous vous préparez. Vous mettez les vêtements qu'il faut, vous vous renseignez, vous faites toutes sortes de choses pour vous préparer pour les rendez-vous. Lorsque vous allez au travail, là, vous vous préparez. Parfois, il faut porter des vêtements particuliers qui sont adaptés pour tel et tel travail. Et du coup, on se prépare pour cela. On ne va pas aller travailler sur une voiture en costume. Il n'y a que les pasteurs qui font ça. Et puis, on ne viendra pas dans l'église avec les vêtements de travail. Du coup, on se prépare pour différents rendez-vous. On se prépare lorsqu'on a une tâche à accomplir. Nous nous préparons lorsque nous allons rencontrer quelqu'un, n'est-ce pas? Selon la personne que nous allons rencontrer, on va se préparer en conséquence. Et pour le chrétien, lorsque nous venons le dimanche matin, que faisons-nous? Nous venons à la rencontre de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu pour l'adorer, pour l'exalter, et cela doit impliquer dans notre vie une certaine préparation, n'est-ce pas? Et nous allons parler concrètement de quelques aspects de cette préparation dans quelques instants, mais inspirons-nous de l'exemple justement de Jacob, parce qu'il peut nous apprendre pas mal de choses sur cela. Mais déjà, soyons convaincus dans notre esprit, dans notre cœur, que la préparation pour le dimanche, lorsque nous venons ensemble, c'est quelque chose d'important. Et en fait, le dimanche doit être un des jours les mieux préparés de la semaine. Nous préparons dans la semaine toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses que nous voulons faire. Et le dimanche doit être un des jours les mieux préparés. Si ce n'est pas le jour le mieux préparé de notre semaine. Toute notre semaine, du lundi au samedi, nous devrions nous préparer à venir le dimanche matin pour adorer, pour exhorter les uns les autres, pour être un encouragement pour les autres, pour recevoir la parole de Dieu. Dans la semaine, il nous faut prendre le temps pour nous préparer. Alors que nous regardons Jacob ici, non pas que lui, il allait à un culte le dimanche matin, non, non. Et pourtant, Dieu l'a appelé à faire quelque chose et Jacob savait qu'il avait besoin de préparation pour cela. Il ne pouvait pas partir tout de suite en disant « je pars comme je suis, peu importe, pas de changement, aucune préparation », non. Il a dû se préparer. Alors au verset 1, nous voyons que Dieu dit à Jacob « lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Dieu parle à Jacob ici. Et au moins une chose qui est sous-entendue avec cela, c'est que Jacob avait une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Si Dieu lui parle, Dieu le connaissait et Jacob était à l'écoute de Dieu. Ça veut dire qu'il avait une relation avec Dieu. Et il ne sera impossible de nous préparer à venir adorer Dieu si nous n'avons pas une relation avec lui. Comme Marie-Flore disait avant son chant, ben, la première chose, la chose la plus importante, c'est le salut. C'est là où tout commence. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, c'est là où tout peut commencer. Mais avant cela, ben non, on n'a pas de relation avec Dieu. Avant de l'avoir accepté comme notre sauveur, nous n'avons pas de relation avec lui. Et il nous sera impossible de nous préparer pour venir l'adorer. Du coup, la première chose, c'est d'avoir une relation avec personnelle avec Dieu. Une relation personnelle, non pas qui vient de quelqu'un d'autre, des amis, des parents ou autres, mais une relation personnelle avec Dieu. C'est là le commencement. Ce n'est pas une fin en soi. Malheureusement, trop de chrétiens ont cette idée que le salut, c'est une fin en soi. Non, 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 c'est le début. Tout comme ici, lorsque Dieu parle avec Jacob, bah, c'était le début. Il y allait avoir une continuité. Et pour nous, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, là, nous pouvons nous préparer pour venir l'adorer. Mais si nous ne l'avons pas fait, à ce moment-là, la première étape, la première chose dans la préparation, c'est justement de l'accepter. Son offre est là. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Dieu veut avoir cette relation avec nous. Et du coup, première étape de la préparation, c'est déjà d'avoir une relation avec Dieu. Et si cela est en place, après, nous pouvons passer aux autres étapes. Mais voilà l'étape principale. Mais admettons que nous avons une relation avec Dieu. Ça, c'est à chacun de voir, chacun de s'examiner en lui-même et dire ai-je cela? Si je l'ai, ben, je peux commencer à me préparer. Et nous voyons qu'au verset 2, Jacob va commencer sa préparation. Il a déjà sa relation avec Dieu. Du coup, il peut commencer à se préparer. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, quittez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et j'ai partagé ceci il y a quelques dimanches avec ceux qui étaient là en première partie. Ce verset me frappe à chaque fois que je le lis. Parce que nous parlons bien de Jacob, Israël, celui qui allait donner naissance aux 12 fils, qui allait devenir les 12 tribus, comme on les appelle, d'Israël. C'est à travers cette lignée que le Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, allait venir. C'est cette famille que Dieu a soit lui pour accomplir son plan. Il a mis à part cette famille, ce peuple. Et pourtant, il y avait des dieux étrangers parmi eux. Il y avait des idoles. Et la première étape de la préparation pour venir devant Dieu, c'est une purification du cœur. Une purification du cœur. Et Jacob ici dit, il faut ôter les dieux étrangers parmi nous. Et on pourrait se dire, mais c'est pas possible, Jacob, avec une relation avec Dieu, c'est pas possible qu'il ait des idoles parmi lui et sa famille. Et pourtant, si. Si, il y en avait. Notamment, les dieux étrangers que sa femme avait volé, donc Rachel avait volé à son père, nous apprenons cela dans les chapitres précédents. Mais il y avait d'autres dieux, d'autres idoles parmi eux. Et Jacob se rend compte que s'il va adorer Dieu, s'il va suivre Dieu, dans sa préparation, il doit se purifier. Et cette purification implique qu'il doit se débarrasser de ses idoles. Et dans notre vie, on peut se dire, mais c'est pas possible, un chrétien qui ait des idoles dans son cœur, c'est pas possible, c'est impossible. Et malheureusement, la vérité, c'est que oui, un chrétien peut encore garder des idoles dans son cœur. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité quand même. Et la Bible fait mention de cela dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Paul, il en parle dans ses épîtres, de se purifier, d'enlever ses idoles, de revenir à Dieu. Et combien de fois, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, le peuple de Dieu est appelé à revenir à Dieu parce qu'il s'en était éloigné à cause, justement, des idoles. Et Jacob, apparemment, avait laissé se faufiler parmi sa famille des idoles. Les idoles étaient rentrées, probablement petit à petit, et Jacob se rend compte, je ne peux pas suivre Dieu, je ne peux pas l'adorer comme il le faut si ces idoles sont encore là. Et à chacun de nous d'examiner notre propre vie et d'identifier les idoles. Parce qu'il pourrait en avoir, nul n'est à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri, moi je ne suis pas à l'abri de ces idoles qui pourraient venir dans notre vie. L'idole du travail. Le travail, bien que ce soit une bonne chose, une chose nécessaire, une chose que Dieu a mis en place, peut devenir une idole. Le travail, lorsque nous lui consacrons trop de temps, lorsque nous sommes trop préoccupés par cela, lorsque nous nous soucions de trop, notre travail, à ce moment-là, cela devient une idole qui prend la place de Dieu. L'argent, bien sûr, n'en parlons même pas. Des personnes, une personne dans notre vie, membre de la famille ou autre, peut devenir une idole lorsque on lui donne trop d'importance. Et ces idoles qui prennent notre temps, nos ressources, doivent être enlevés de notre vie. Et ces choses doivent être enlevées déjà en demandant pardon. Jacob ici, il va être assez radical. Regardez verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térabinthe qui est près de Sichem. Il a pris tout ce qui allait le dévier du plan de Dieu, tous ces dieux étrangers, toutes ces choses dans lesquelles il se confiait, lui et sa famille. Et ce n'est pas comme s'il va les garder avec lui, mais les mettre dans un coin quelque part. Non, il s'en débarrasse complètement. C'est quelque chose de radical, là. Il va couper net avec ses idoles. Et par moment dans notre propre vie, il faut couper net avec des choses. Il faut qu'il y ait une coupure où on dit j'arrête telle ou telle chose. Et pour chacun de nous, ça va être des choses différentes. Parfois, il y a un processus où nous apprenons à renoncer à certaines choses, mais parfois, il faut des mesures radicales parce que nous voulons nous préparer pour adorer Dieu. Jacob n'avait pas de problème à laisser ses dieux et même ses objets de valeur. Lorsqu'on parle des anneaux ici, c'était des choses qui valaient, qui avaient de la valeur. On aurait pu dire, ben, ça peut être vendu pour récupérer l'argent et tout, mais Jacob dit non, je ne veux pas du tout de cela. Je vais préparer ma famille en me coupant entièrement de ces choses. Et comme j'ai dit, il y a aussi cette idée de demander pardon. Dieu doit être à la première place dans notre vie. Nous le savons. Ce n'est pas une vérité radicale que j'annonce là. Dieu doit être à la première place dans notre vie. Et lorsqu'il ne l'est pas, c'est un péché contre lui. Et pour cela, il faut demander pardon. Et dans la semaine, lundi et samedi, n'y a-t-il pas des moments où nous laissons entrer dans notre vie des choses qui usurpent la place de Dieu, qui prennent notre temps, nos ressources, notre réflexion sur Dieu? Ces choses occupent nos pensées, et à ce moment-là, bah, Dieu, il est relégué à la deuxième, voire troisième, voire plus bas. Deuxième, troisième place. Et à ce moment-là, lorsque nous nous rendons compte, il nous faut nous rendre compte de la gravité de la chose et demander pardon. Quelle est la dernière fois que vous avez demandé pardon à Dieu de ne pas l'avoir mis à la première place? Si nous voulons nous préparer pour venir devant Dieu, oui, il faut purifier son cœur et cela passe par une demande de pardon. On reconnaît devant Dieu, Dieu, je n'ai pas agi comme il fallait. Dieu, j'ai péché dans tel ou tel domaine. Je te demande pardon. Et gloire à Dieu, nous avons cette assurance dans 1 Jean, chapitre 1, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu ne dit jamais, cette fois-là, c'était celle de trop. Là, j'en ai assez, j'en ai marre. Je ne pardonnerai pas. Non, Dieu ne dit jamais cela. Lorsque nous venons demander pardon, Dieu nous pardonne, il nous restaure. Mais la condition, c'est que nous lui demandons pardon. Et du coup, pour purifier son cœur, oui, il faut demander pardon. Il faut enlever ses idoles. Peut-être qu'il y aura des choses qu'il nous faut arrêter de faire, des choses qu'il nous faut arrêter de regarder ou d'écouter. D'examiner sa propre vie et dire « Que puis-je faire pour mieux me préparer pour Dieu ?» Et puis, lorsque nous regardons ce verset, nous voyons que Jacob, ici, et j'y ai fait allusion tout à l'heure, Jacob va préparer toute sa famille. Oui, il y a un sens où cette préparation est individuelle. Jacob le fait pour lui-même et chacun dans sa famille devait se préparer de manière individuelle, mais aussi Jacob en tant que chef de famille devait préparer toute sa famille. Et là, pour les parents, plus spécifiquement le mari, il a cette tâche, cette responsabilité donnée par Dieu de préparer sa famille pour pouvoir venir adorer Dieu. Et c'est quelque chose qui se fait dans la semaine. Et chacun dans la famille doit contribuer à la préparation. Nous voyons que Jacob a poussé sa famille dans ce sens, mais que chacun y a participé. Regardez verset 4 de nouveau. Ils donnèrent qui ? Ses femmes, ses enfants, ses servants, ses serviteurs, ben, tous, ben, ils ont donner les dieux étrangers, tous leurs idoles, tout, ben, chacun individuellement, en suivant l'exemple de Jacob, a fait cela. Donc c'est une affaire de famille. Bien sûr, les parents qui vont pousser dans cette direction, qui vont donner l'exemple, mais c'est chacun dans la famille. Pas juste un seul, pas juste quelques-uns, mais tous. C'est une affaire de famille, parce que Dieu n'ignore personne. Dieu ne pense pas plus aux parents qu'aux enfants. Dieu ne s'occupe pas plus de l'un ou de l'autre. Non, Dieu veut que chacun soit préparé pour venir devant lui. Du coup, Jacob donne l'exemple et puis il va impliquer toute sa famille. Si Jacob s'était purifié et s'est préparé lui-même, c'est très bien. Mais il serait passé à côté d'une préparation complète pour Dieu. Et si toute sa famille l'avait fait, mais si Jacob ne l'avait pas fait, là aussi, il y aurait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, Jacob comprend, c'est toute la famille qui doit le faire. Puis, verset 3, regardez ceci. Jacob, dans sa préparation, se rend compte de qui il a affaire. Verset 3, nous nous lèverons, très bien, nous monterons à Bethel, littéralement la maison de Dieu, et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Jacob se rend compte qu'il ne se prépare pas pour un homme, il ne se prépare pas pour sa famille, il ne se prépare pas pour les habitants de Bethel. Non, il se prépare pour rencontrer Dieu. Et cette perspective-là change tout. Et il nous faut garder cela à l'esprit parce que nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux physiques. Lorsque nous nous rassemblons, que voyons-nous? Nous voyons le bâtiment. Très bien, il faut louer Dieu pour le bâtiment qu'il nous a donné. Il faut en prendre soin. On veut que nous ayons un lieu accueillant, agréable pour nous réunir. Donc nous voyons le bâtiment, nous voyons les uns les autres. Qu'on le veuille ou pas, nous constatons ce que quelqu'un va porter. C'est de ce dimanche. Comment quelqu'un s'est coiffé. Toutes ces choses extérieures, nous les voyons. Qu'on ne se rende pas au compte, qu'on se rende compte ou pas, nous constatons ces choses. Mais ce n'est pas pour cela que nous nous préparons. Non, dans notre esprit, la première raison pour laquelle nous nous préparons pour venir dans la maison de Dieu, c'est justement parce que nous rencontrons Dieu. Ce Dieu fidèle qui a agi dans le passé. Jacob le reconnaît. Il dit, c'est ce Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Jacob fuyait la colère de son frère, Ésaü. Et il lui avait volé sa bénédiction. Et Ésaü lui en voulait. Donc, il va fuir, va entreprendre ce long voyage jusque chez la famille de sa mère. Et Jacob crie à Dieu, et Dieu l'a exaucé, Dieu lui a répondu. Et Jacob se dit, ben, je vais rencontrer ce Dieu-là qui m'a exaucé, et puis qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Dieu l'a exaucé à un moment donné, mais Dieu a continué d'être avec lui. Ce n'est pas comme si Dieu vient à un moment donné, et après il part, après il revient, et après il part. Non, Jacob savait que Dieu était toujours avec lui. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devrions venir pour Dieu. Et il nous faut nous le rappeler parce que, comme j'ai dit, nous ne voyons pas Dieu. Nous voyons toutes ces choses extérieures. Nous avons tendance, malheureusement, à être frappés par cela, à être dirigés par ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Et en tant que chrétien, toujours de se rappeler, si je me prépare, si je passe du temps à me préparer, c'est parce que je me prépare pour Dieu. Je ne me prépare pas pour un homme. Je ne me prépare pas pour un groupe, pour telle ou telle personne. Je ne me prépare pas pour moi-même. Non, je me prépare à rencontrer Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est avec nous. Et nous pouvons penser à des moments où nous avons prié vers Dieu et il nous a répondu. Nous savons que Dieu est avec nous. Dans les bons moments, tout comme dans ceux qui semblent moins bons, Dieu est avec nous. Et Jacob l'a compris. Et il voulait bien se préparer pour aller, comme j'ai dit, littéralement à la maison de Dieu, Bethel. Il allait à la maison de Dieu, il allait rencontrer Dieu. Et à cause de cela, il s'est préparé. Du coup, pour nous, nous venons dans la maison de Dieu. Là, ce n'est pas le bâtiment lui-même, mais c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Et de se poser la question, nous sommes-nous préparés? Avons-nous pris le temps cette semaine de nous préparer? Avons-nous pris le temps ce matin de nous préparer? Parfois, nos occupations de la journée, de la semaine, nous empêchent de bien nous préparer. Parfois, les actions des autres nous empêchent. Parfois, le péché même peut nous empêcher de nous préparer. Nous savons l'importance. Nous voyons l'exemple de Jacob et on se dit, oui, je veux faire cela, mais voilà, je suis bien occupé. Il y a telle ou telle chose que quelqu'un a fait. Il y a le péché, toutes ces choses. Et pourtant, quand même, nous devrions arriver à le faire. Nous ne prendrons pas le temps ce matin de voir le contexte, mais très brièvement, le chapitre 34, c'est une histoire, ce qu'on appelle une histoire sordide, des fils de Jacob, Simon et Lévi en l'occurrence, qui vont frapper une ville suite à l'enlèvement de leur sœur. Vous pouvez, à votre loisir, prendre le temps de lire le chapitre 34. Et Jacob, il a peur des représailles des habitants qui sont autour. Et il dit, bah, ils vont venir nous frapper. Ils vont venir, oui, nous exterminer à cause de ce que vous avez fait, mes fils, Simon et Lévi. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit à Jacob de s'en aller. Et c'est là où Jacob se prépare. Jacob était, dans ce sens, dans la détresse. Jacob, il avait peur. Jacob aurait pu se dire, ah, j'ai ce souci des gens qui m'entourent, j'ai mes fils qui ont péché, qui ont mal agi, comment puis-je me préparer? Et Jacob se dit, non, je focalise sur Dieu. Oui, il y a le péché autour de nous. Il y a parfois et souvent le péché dans notre propre vie. Il y a les occupations de notre vie. Il y a l'action des autres autour de nous. Cela ne devrait pas nous empêcher de nous préparer. Jacob ne s'est pas laissé déstabiliser par toutes ces choses. Non, quand même, au sein de ces circonstances difficiles, de cette peur, de ce péché, ben, il est arrivé quand même à se purifier. Dieu l'a aidé dans cela. Et pour nous également, il nous faut, peu importe, nous préparer pour aller à la rencontre de Dieu. Du coup, Jacob se prépare. Et nous, prenons-nous le temps? Dans la semaine, est-ce que nous pensons au dimanche qui arrive? Les Européens, dans ce sens, ils ont bien fait de mettre le lundi, premier jour de la semaine, dimanche, le dernier. Parce qu'on regarde une semaine, le dimanche est à la fin. Dans un sens, c'est très bien. Parce que déjà, dans son esprit, on se dit, tout va vers le dimanche. Très bien. Et c'est dans cette optique que, dans la semaine, ce que je fais me prépare, petit à petit, à écouter la parole de Dieu, à recevoir, à être un encouragement, et puis de mettre en pratique ce que Dieu dit. Les choses que j'écoute, les choses que je regarde, doivent me préparer, que ce soit le lundi, que ce soit le samedi, tous les jours entre, doivent me préparer dans ce sens. Et puis, de prier dans la semaine, Dieu déjà prépare mon cœur. Ce n'est jamais trop tôt pour faire cette prière. Le lundi, ce n'est pas trop tôt pour déjà se préparer au dimanche suivant. Souvent, dans les messages, nous faisons des études, soit de livres ou de passages. Et parfois, il y aura plusieurs dimanches de suite dans un seul passage. Prenez de prendre le temps dans la semaine de relire ces passages, de les revoir, c'est se préparer pour adorer Dieu. De prier à ce que Dieu nous change, c'est se préparer pour adorer Dieu. Et puis, de manière concrète, le samedi, oui, on est bien occupé. Souvent, dans la semaine, on a notre travail, et là, le samedi, notre jour de libre, on va planifier toutes sortes d'activités, rien de mal à cela. Mais, d'avoir une bonne nuit de repos le samedi soir. Le dimanche matin, le dimanche soir plutôt, on préfère se coucher plus tôt pour être prêt pour aller travailler le lundi. On veut être en forme, on ne veut pas rater le travail le lundi, alors on se prépare en conséquence. Le samedi soir, faisons-nous autant pour venir rencontrer Dieu. Le dimanche matin, levons-nous assez tôt pour venir pour adorer Dieu. Arrivons-nous à l'heure ou est-ce que je ose le dire en avance pour le culte ou même pour la première partie? Arriver à l'heure ou même en avance nous permet d'être dans l'esprit d'adoration déjà, nous permet aussi de discuter les uns avec les autres. Ce sont des choses concrètes que nous pouvons faire. Aussi, nous pouvons prier déjà à la maison le dimanche matin. Le dimanche matin, avant de venir à l'église, est-ce que vous priez? Dieu, transforme mon cœur. Dieu, enseigne-moi. Dieu, aide-moi à être une bénédiction pour quelqu'un. C'est une prière que nous devrions faire tous les dimanches avant de venir à l'église. Et Dieu répondra. Cette préparation, oui, on peut le faire. Écoutez de la bonne musique. Alors, le dimanche matin, je suis en haut chez moi, je me prépare et je mets de la bonne musique chrétienne. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles bibliques, parce que ce sont de belles mélodies qui me mettent dans l'esprit de venir adorer Dieu. C'est quelque chose de simple que nous pouvons faire. Ce sont des choses pratiques dans notre vie qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui vont nous aider. Et puis, de lire la parole. J'ai honte d'admettre qu'il y a eu une époque dans ma vie où le dimanche, je me suis dit, je vais à l'église, on étudie la parole et tout, alors le dimanche, je n'ai pas besoin de lire la Bible chez moi. Il y avait une époque où j'avais ce genre de réflexion. Et puis, par la grâce de Dieu, il m'a montré que non, ce raisonnement, il est totalement faux. Ce n'est pas parce que nous lisons la parole et nous la méditons le dimanche matin à l'église que avant ou même après, nous n'avons pas besoin de le faire. Et pourtant, j'essayais de justifier dans mon raisonnement cela. Mais non, même avant de venir à l'église, de lire les passages, que ce soit les versets à apprendre le dimanche matin, ça vous avez dans votre bulletin, vous savez. Que ce soit des passages, la lecture biblique. Derrière le bulletin, il y a cette lecture biblique que vous pouvez faire tous les jours. De faire cela. Passer du temps dans la parole de Dieu avant même de venir à l'église le dimanche matin. Vous allez me dire, oui, mais ça prend du temps. Oui, c'est vrai. Peut-être il faudra se lever un peu plus tôt. Je ne suis pas du tout matinal, vous le savez. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, le matin, je n'aime pas me lever. Je préfère de loin me coucher plus tard le soir et puis me lever un peu plus tard le matin. Mais pour bien me préparer, parce que Dieu le mérite, parce que je veux être bien préparé pour lui, le dimanche matin, je me lève assez tôt pour passer du temps dans la parole, pour prier, pour préparer mon esprit, déjà d'apporter sa parole, mais aussi de recevoir et de le glorifier. Et peut-être que dans notre vie, cela impliquera un changement dans notre emploi du temps. C'est-à-dire, soit on se lève plus tôt, ou on fait les choses différemment, mais que nous nous préparions, parce que Dieu le mérite. Et du coup, prier, écouter de la bonne musique chrétienne, lire la parole, nous avons besoin de cela, parce que dans la semaine, nous subissons l'influence du monde, nous entendons parler de tout le mal qui se passe dans le monde, surtout cette semaine. N'avez-vous pas été frappé, bouleversé par ce qui s'est passé à Paris? Oui, on est un peu pris par cela, et si nous ne faisons pas attention, nous venons le dimanche matin avec uniquement cela à l'esprit, et nous laissons Dieu de côté. Il faut se préparer. Et nous savons que Dieu mérite notre préparation. Tout comme nous nous préparons pour les autres activités dans notre vie, préparons-nous davantage pour venir le dimanche matin adorer Dieu. Mais regardez le verset 5. C'est volontairement que je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Le verset 5. Ensuite, ils partirent. Dieu parle à Jacob. Jacob va à la rencontre de Dieu. Du coup, il se prépare avec toute sa famille. Et verset 5, ensuite ils partirent. Après leur préparation, c'est là où ils partent. Pas avant, mais après leur préparation, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. Parce que Jacob s'est préparé, à ce moment-là, Dieu a pu agir. Souvenez-vous, il craignait être frappé par les peuples qui l'entouraient. Il s'est dit, mes fils, vous avez mal agi, vous allez attirer la colère de nos voisins. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On est en danger maintenant. Et maintenant, Dieu les protège. Parce qu'ils se sont préparés. Ils se sont préparés et parce qu'ils ont obéi à Dieu, là, Dieu les protège, Dieu les dirige. Et comment pouvons-nous espérer avoir à la fois la protection et la direction de Dieu si nous ne prenons pas le temps de nous préparer? Peut-être il le fera, mais il ne sera nullement obligé de le faire. Or, si nous nous préparons, dans la prière, en prenant le temps qu'il faut, à ce moment-là, Dieu a toute l'attitude pour agir, pour montrer sa puissance dans notre vie. Et il va nous transformer et il va transformer ceux qui nous entourent. Mais la condition, c'est de se préparer. Et ce verset 5, ensuite, c'est uniquement après la préparation qu'ils sont partis. Et encore une fois, pour nous, où en sommes-nous dans notre préparation? Si nous n'avons pas une relation avec Dieu, on peut se préparer autant que l'on veut, cela ne sert à rien. Il faut déjà avoir cette relation avec Dieu. Mais si nous avons cette relation avec Dieu, est-ce que nous prenons le temps de nous préparer? Et si nous prenons le temps, est-ce que nous prenons assez de temps pour le faire? Parce que cette rencontre avec Dieu n'est pas comme une rencontre quelconque. Non, c'est quelque chose d'important, notre plus importante rencontre de la semaine. Alors, préparons-nous en conséquence et aussi préparons-nous à voir Dieu agir. Lorsque nous sommes obéissants, Dieu promet d'agir dans notre vie. C'est une promesse de sa part. Alors, prenons ces décisions aujourd'hui. Dieu, aide-moi à changer. Je veux me préparer, donne-moi la sagesse de savoir ce qui doit changer dans ma vie. Donne-moi la volonté de le faire. Donne-moi la puissance de changer dans ma vie pour mieux me préparer pour toi, pour que dimanche prochain, nous venions tous préparer et à travers toute cette année 2015, nous puissions croître dans cette préparation. Chaque dimanche, venir préparer en disant « Seigneur, je suis prêt à la fois de recevoir les foi, mais aussi d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. » Inspirons-nous de l'exemple de Jacob qui allait à la rencontre de Dieu, mais qu'il a fait avec une bonne préparation. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons être préparés pour venir devant toi. Aide-nous à nous souvenir de cette préparation qui doit être faite et donne-nous, par ta grâce et par ton Saint-Esprit, la force nécessaire pour le faire. Donne-nous, Seigneur, du discernement chaque jour pour nous préparer devant toi. Et Seigneur, que tu puisses être honoré et exalté parce que nous nous préparons pour venir devant toi et que tu puisses faire de grandes choses à travers nous à cause de cela. C'est en ton nom que nous prions. Amen.